Bonjour à toutes et à tous. Notre rendez-vous de la semaine sera consacré à l'élection présidentielle en France, puisque j'ai l'honneur d'avoir au téléphone Michel Gurfinkiel, journaliste, écrivain et essayiste, rédacteur en chef émérite de Valeur Actuelle, qui contribue également à de nombreux médias américains comme Commentary, Mosaic, PJ Media et The Middle East Quarterly. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et également président de l'Institut Jean-Jacques Rousseau et Shilman Gainsbourg Fellow au Middle East Forum. Michel Gurfinkiel, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Sepharad.
Bonjour.
Alors, nous sommes à 2 mois, jour pour jour, du premier tour de l'élection présidentielle en France, à laquelle les Français vont voter dans un climat de menace sur leur sécurité, mais aussi de populisme, de rejet de la politique et des élites. À qui peut profiter ce climat, d'après vous ?
Il est difficile de répondre. Je crois que la première constatation, c'est que si l'on additionne les différents candidats qui font appel au peuple, qui basent leur campagne sur un rejet des élites actuelles, qu'il s'agisse d'ailleurs des élites économiques, sociales ou des élites médiatiques et intellectuelles, il semble que ces rebelles populistes constituent plus de la majorité actuellement du corps électoral, du moins dans la configuration d'un premier tour d'élection française, c'est-à-dire d'une élection qui se déroule, où l'on vote pour le candidat que l'on veut, donc pratiquement un vote à la proportionnelle. Comme vous savez, dans le système électoral français, il y a un premier tour où on vote à la proportionnelle, l'ensemble du pays constitue une seule circonscription et chaque candidat obtient un certain nombre de voix par rapport à l'ensemble des électeurs, tandis que au deuxième tour, on entre dans une autre configuration, puisque les mêmes règles portent au niveau de la circonscription, il y a toujours une circonscription unique, mais deux candidats seulement peuvent se présenter. Donc, bien que ce soit toujours à strictement parler un vote proportionnel, cela ressemble plus au deuxième tour à un vote de type anglo-saxon, un vote uninominal. Il y a une très grande différence dans le comportement des électeurs au premier tour d'une élection française et au deuxième tour. Au premier tour, les électeurs français votent selon leurs sentiments ou leurs passions. Au deuxième tour, ils votent selon un calcul politique. Et ce calcul politique, parfois, est très éloigné de ce qu'ils ont pu faire au premier tour. Donc, selon les projections actuelles, au premier tour de la présidentielle, il semble que l'ensemble des candidats à caractère populiste ou anti-élite constituent la majorité dans le pays, mais au deuxième tour, il est probable que une majorité qu'il faudra bien qualifier de non-populiste finira par se dégager.
Oui, c'est d'ailleurs la particularité de l'élection française que vous avez rappelé, la différence entre le premier tour et le second tour. Mais si on se concentre sur le premier tour maintenant, quelles sont les têtes de pont, quelles sont les personnalités marquantes qui symbolisent, qui incarnent cette passion ou ce sentiment de rejet des élites ?
Écoutez, d'après tous les sondages que dont nous disposons actuellement, Marine Le Pen, qui incarne donc un populisme thématique considérée comme athématique de droite, ça peut être discuté à l'infini. Marine Le Pen, qui est en tout cas issue de l'extrême droite et vue comme l'extrême droite par la majorité des Français, actuellement, selon les sondages actuels, elle est en tête elle viendrait, elle arriverait en tête lors du premier tour de la proportionnelle. Tous les sondages que l'on a, dont on dispose depuis maintenant plusieurs mois, tournent autour des mêmes chiffres, c'est-à-dire approximativement 25% pour elle. Alors, il y a, bien sûr, beaucoup d'observateurs qui se demandent si ces sondages sont fiables et si le véritable taux que peut faire Marine Le Pen ne sera pas en définitive plus élevé. Beaucoup d'observateurs se demandent si les électeurs, lorsqu'ils répondent aux sondages, n'ont pas tendance à masquer leur soutien à Marine Le Pen. Le problème, c'est que les instituts de sondage sont habitués maintenant, depuis très longtemps, à majorer systématiquement les résultats obtenus hier par Jean-Marie Le Pen et aujourd'hui par Marine Le Pen. Donc, la probabilité d'une sous-estimation est relativement faible. Et puis, par ailleurs, constatons simplement que dans une certaine mesure, c'est-à-dire que tant qu'on n'en arrive pas à un scrutin extrêmement serré, les sondages français, à la différence de sondages qui ont pu être faits dans d'autres pays, ont tendance à être plutôt bien faits et ils ont tendance à correspondre à la réalité finale, dans une marge tout de même, mais qui est la marge habituelle des sondages de environ 5%. Ça peut effectivement créer la surprise dans une élection très serrée, mais je pense qu'il y a des raisons de penser que le chiffre que l'on indique actuellement pour Marine Le Pen, c'est-à-dire à peu près 25% de l'électorat, est un chiffre probablement fiable. Alors, les autres candidats qui viennent ensuite, le deuxième candidat qui vient ensuite, c'est François Fillon. François Fillon, c'est le candidat de la droite classique. Il a été désigné à travers des primaires au sein des électeurs de droite. Ces primaires ont été marquées par une surprise. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, mais encore une fois, les primaires, ce ne sont pas des élections normales et il n'est pas sûr que les instituts de sondage soient en fait équipés pour bien analyser les intentions de vote pour les primaires. Donc là, il y a eu une surprise puisque Fillon s'est imposé face à ceux que l'on donnait comme les favoris, l'ancien président Sarkozy et l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Fillon a semblé être en mesure de passer devant Marine Le Pen au premier tour des présidentielles. C'était les résultats qu'il semblait obtenir à peu près vers le mois de décembre, dans les premiers jours de janvier. Et puis, comme vous savez, il a subi un effondrement relatif à la suite d'un scandale. En effet, il y a toute une discussion sur le fait qu'il aurait fait bénéficier son épouse et d'autres membres de sa famille d'emplois fictifs. Mmh. C'est ce scandale, en tout cas sur le plan médiatique, qui aura peut-être aussi des conséquences sur le plan judiciaire, ce scandale a entamé la crédibilité de Fillon et donc entraîné une perte de vitesse de Fillon dans les sondages, mais il n'en reste pas moins qu'il continue à être un candidat relativement important. L'autre candidat qui est en tête et qui donc pourrait venir directement derrière Marine Le Pen, c'est un personnage tout à fait surprenant. Il s'agit en effet d'Emmanuel Macron. Macron est très surprenant par rapport à la classe politique française, puisque il a été ministre, de l'économie, mais il n'a jamais été, il n'a jamais exercé de fonction élective. Il n'a jamais été élu député, par exemple. Il est complètement atypique, puisque il est marié à une femme beaucoup plus âgée que lui, et il est atypique aussi sur le plan de ses idées politiques. Bien que ministre du gouvernement Valls, c'est-à-dire ministre d'un premier ministre socialiste sous un président socialiste, Macron a en fait mené une politique que l'on peut qualifier de, au sens français du terme, de libérale, c'est-à-dire une politique orientée vers, vers l'économie de marché et vers la liberté d'entreprendre, de travailler, etc. Donc nous avons quelqu'un qui est issu de la gauche, qui n'est pas adoubé par la classe, les partis politiques de gauche, en tout cas pas par le Parti Socialiste.
Et il n'a pas participé aux primaires de gauche.
Mais qui, en même temps, exerce une certaine séduction, d'abord sur les électeurs centristes, le centre-gauche, voire le centre-droit, et aussi sur une partie des électeurs de droite qui éprouveraient un certain besoin de changement par rapport au candidat dont il bénéficie actuellement. Macron, à la surprise générale, a réussi une percée dans l'opinion publique et dans les sondages. Certains sondages, il y a quelques semaines, le mettaient en seconde position derrière Marine Le Pen et devant François Fillon, et surtout indiquait qu'au deuxième tour, il semblait mieux placé que Fillon pour réunir une très large majorité contre Marine Le Pen. Maintenant, la question est de savoir, bien entendu, si Macron, qui est en quelque sorte un personnage complètement inhabituel dans la politique française, va rester en place, ou bien si au fil des semaines, en réalité, l'électorat, à un moment séduit par ce personnage, ne va pas peu à peu se replier sur des candidats plus classiques. D'ores et déjà, on a pu constater au cours des derniers jours un certain affaiblissement de ces résultats dans les sondages. Au même moment, on a vu apparaître une montée du candidat qui a été désigné dans la primaire socialiste, Benoît Hamon. Benoît Hamon appartient à l'aile la plus à gauche du parti socialiste. C'est à peu près l'équivalent de Jeremy Corbyn en Angleterre. Mm-hmm. En tant que tel, il suscite l'adhésion, on va dire, d'une gauche très dure au sein de l'électorat socialiste, mais il suscite également le rejet de la tendance plus social-démocrate de l'électorat socialiste, qui a priori aurait tendance donc à soutenir plutôt Emmanuel Macron. Pour l'instant, Hamon se situe assez loin derrière Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron, mais il est en train de monter, et semble-t-il, au détriment de Macron. Donc, nous ne pouvons pas dire, à 2 mois des élections, comment les choses, en fait, vont se passer au moment du premier tour. Nous ne pouvons pas savoir si Fillon va rester en place. Nous ne pouvons pas savoir si, à gauche, c'est Macron ou c'est Hamon qui va s'imposer comme le meilleur candidat. Et nous ne savons pas, en définitive, qui sera le candidat au deuxième tour contre Marine Le Pen, qui, selon tous les cas de figure, semble assurée d'être présente au premier tour.
Alors,
Je dirais ceci.
Oui.
Toutes les projections que nous avons semblent indiquer que Marine Le Pen ne peut pas être élue au deuxième tour. Il semble qu'il y ait une majorité plus ou moins importante, mais quand même décisive, d'électeurs en France qui sont prêts à voter pour quasiment n'importe qui, sauf Marine Le Pen. Il y a nettement une majorité qui est prête à voter pour Macron contre Marine Le Pen. Il y a une majorité peut-être un tout petit peu plus moins forte, qui est prête à voter Fillon contre Marine Le Pen. La vraie question, ce serait un scénario où Hamon serait le candidat qui émergerait pour le deuxième tour face à Marine Le Pen. Et alors là on entre dans l'inconnu parce que le rejet d'Hamon est probablement, dans une bonne partie de l'électorat, au moins aussi fort que le rejet vis-à-vis de Marine Le Pen. Mmh.
Parmi tous ces candidats que vous avez énumérés, lequel inspire le plus de confiance ou le moins de défiance aux Juifs de France ?
Alors, essayons de procéder par élimination. Marine Le Pen a fait des efforts considérables pour... Elle a fait un effort décisif qui a consisté à abandonner la rhétorique explicitement antisémite à laquelle recourait son père Jean-Marie Le Pen. Elle a également pris des mesures pour faire taire ou éliminer des membres du Front National qui auraient pu se laisser aller à des propos explicitement antisémite ou raciste. Néanmoins, jusqu'à présent, la majorité, l'immense majorité des Juifs de France n'a pas senti chez Marine Le Pen ce que l'on pourrait appeler une véritable sympathie ni à leur égard, ni à leur égard d'Israël. Au mieux, ils peuvent avoir le sentiment que Marine Le Pen n'est pas absolument une adversaire d'Israël ou n'est pas absolument antisémite, mais ils n'ont pas le sentiment qu'elle serait une amie d'Israël ou une amie de la communauté juive. Il y a eu des propos répétés de Marine Le Pen qui ont indisposé la plus grande partie de la communauté juive de France. Par exemple, Marine Le Pen se fait l'avocate d'une laïcité pure et dure, dirigée évidemment à première vue contre le l'islam intégriste, l'islam radical, mais elle a toujours éprouvé le besoin d'indiquer que les mesures ultra-laïques qu'elle compte adopter s'appliquerait également aux Juifs, c'est-à-dire que si par exemple le voile islamique est interdit en France, et bien de la même manière dans l'espace public, et bien de la même manière la kippa devrait l'être. Mmh. Si des mesures doivent être prises contre le halal, elles devraient être prises également contre
le kasher.
L'abattage rituel cachère. Ce sont des... c'est surtout sur l'analogie voile kippa que Marine Le Pen s'est d'ailleurs exprimée. Il y a aussi un autre point qui a indisposé beaucoup de gens au sein de la communauté juive récemment. Marine Le Pen s'est déclarée favorable à la suppression de toute double nationalité, c'est-à-dire que les Français qui disposeraient d'une autre nationalité ou les étrangers qui disposeraient de la nationalité française seraient sommés de choisir entre leurs deux nationalités. Et elle a tenu des propos quand même dérangeants puisqu'elle a donné comme exemple, il est vrai, dans le cadre d'interviews où elle n'était peut-être pas entièrement libre de toutes ses questions et donc de la nature de ses réponses. Enfin, elle a donné comme exemple les franco-israéliens. Et elle a tenu aussi un autre propos qui a quand même suscité beaucoup de commentaires. Elle a dit qu'elle acceptait la double nationalité dans le le cas des pays membres de l'Union européenne et préciser qu'Israël ne faisait pas partie de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas accepter une double nationalité franco-israélienne. Mmh. Or, c'est troublant d'entendre ces propos dans la bouche de Marine Le Pen, dans la mesure où Marine Le Pen, par ailleurs, demande que la France quitte l'Union européenne. Donc, pourquoi parler de l'Union européenne pour quelque chose qui devrait concerner directement la citoyenneté française? On a le sentiment que le non-dit d'une telle affirmation, c'est en fait que Israël ne fait pas partie, et donc quelque part peut-être les Juifs ne font pas partie de la culture, de la civilisation européenne. Quoi qu'il en soit, pour ces raisons, et aussi probablement en raison du reste de son programme politique, y compris de son programme politique en matière économique, de son programme politique en matière européenne, son programme politique en matière d'alliance, Marine Le Pen n'inspire absolument pas confiance dans la très grande majorité de la communauté juive de France, et on peut penser que la plupart des juifs français voteront contre elle au premier tour et au deuxième tour. Le deuxième candidat, François Fillon, qui est le candidat de la droite classique, le problème avec François Fillon, c'est que lui aussi s'est livré au nom de la laïcité à des remarques pas très obligeantes vis-à-vis du judaïsme de la communauté juive, et que, surtout, il ne l'a pas dit une fois, mais il est revenu assez constamment sur de tels propos. Et notamment, au cours des derniers mois, en parlant de la nécessité d'un certain contrôle administratif de l'islam en France, il a argué du précédent du judaïsme français en disant que les juifs de France, pendant une certaine époque, ne voulaient pas soumettre aux lois de la République. Mmh. Ce qui est totalement faux, inexact sur le plan historique et presque délirant, on va dire. Donc, sur ce plan et sur d'autres, il y a eu des propos également peu favorables à Israël de la part de Fillon. Il n'y a pas nécessairement une adhésion spontanée de la communauté juive de France vis-à-vis de Fillon, mais en revanche, une partie importante de la communauté de France peut être amenée à voter Fillon pour voter utile et surtout pour faire en sorte que la droite classique ne s'effondre pas dans ce pays. Car s'il y avait un effondrement de la droite classique, on pourrait craindre à ce moment-là que le Front National devienne, le Front National de Marine Le Pen, devienne la principale formation de droite. Donc, en dépit d'un certain nombre de déclarations qui ont mis mal à l'aise la communauté juive de France, il semble tout de même que celle-ci serait prête à voter pour Fillon dans un esprit de vote utile. Il est certain que Macron pourrait susciter l'adhésion d'une partie de la communauté juive de France, d'une partie des juifs de gauche qui ne veulent pas voter pour l'extrême gauche, mais aussi de juifs centristes. Il est difficile de dire où nous en serons dans un mois ou dans deux mois parce que les choses sont encore extrêmement volatiles et l'on ne sait pas ce que les résultats de sondage seront dans un mois ou dans deux mois. Enfin, je pense que très peu de juifs en France sont disposés à voter pour Hamon qui représente, disons, un socialisme très extrémiste, très gauchiste, anti-israélien, ouvertement pro-palestinien. Je pense qu'il y aura en fait un rejet d'Amon assez net au sein de la communauté juive de France. Je n'ai pas mentionné un autre candidat.
Oui, j'allais y venir, Jean-Luc, à gauche, Jean-Luc Mélenchon.
De Mélenchon, qui est le candidat du plus ou moins du Front de Gauche, c'est-à-dire en gros du Parti communiste et d'autres. Et d'autres formation du même type. Je n'ai pas parlé non plus des candidats écologiques. Mélenchon et les candidats écologiques sont généralement anti-israéliens, généralement ils n'inspirent aucune confiance à la communauté juive et il y a très très peu de chances que la communauté juive se porte pour eux. La seule importance d'ailleurs par rapport au scrutin, c'est que si Mélenchon ou les écologistes, c'est que Mélenchon et les écologistes en se maintenant pour le premier tour peuvent soustraire de nombreuses voix aux candidats de la gauche, disons radicale, c'est-à-dire Hamon, ou aux candidats du centre et du centre-gauche, qui seraient Macron.
Nous n'avons pas mentionné Emmanuel Valls, qui semblait être le favori, je pense, de la communauté en France. Nous ne l'avons pas mentionné parce qu'il n'a pas gagné les primaires.
Il a été éliminé dans les primaires socialistes, exactement. Et à ma connaissance, il n'a pas l'intention d'être candidat à titre individuel.
Exactement. Mais maintenant que, justement, il a été éliminé et que nous avons cet éventail devant nous, et pour terminer... lequel aurait une position plus favorable envers Israël ?
De tous les candidats que nous venons de mentionner ?
Oui.
De tous les candidats que nous venons de mentionner ? Écoutez, si l'on s'en tient simplement à certaines déclarations, ceux qui ont tenu à certains moments des propos favorables à Israël... Macron en a tenu, il a tenu des propos assez élogieux, notamment sur le plan, sur le côté start-up nation d'Israël. Le cas de Fillon est très ambigu, puisqu'il a tenu à la fois des propos pas favorables à Israël et à certains autres moments des propos beaucoup plus favorables. Nous n'avons pas entendu de Marine Le Pen des propos réellement pro-israéliens et nous n'avons entendu de la part de Hamon et de la part de Mélenchon, des écologistes, que des propos anti-israéliens.
Bien, en tout cas, nous serons attentifs à l'évolution de cette avant-élection. Nous serons attentifs également aux élections mêmes et à leurs débouchés. Michel Gurfinkiel, merci beaucoup pour cette analyse. Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.